Pour rester informé tout au long de la journée, écoutez Radio Omega. Radio Omega. 103.9 Ouaga, 104.7 Bobo Dioulasso. Radio Omega, le journal. Les titres de l'actualité.
Brigitte Yoda.
Bonjour à toutes et à tous. Au sommaire, procès des présumés terroristes au Burkina Faso. Deux personnes ont été condamnées et une autre relaxée pour insuffisance de preuves selon le tribunal. Pascal Zaïda, coordonnateur du cadre d'expression démocratique, a été arrêté hier et placé en garde à vue. Les faits de tentative d'atteinte à la sûreté de l'État, incitation à la rébellion et déclaration subversive lui sont reprochés. Chaude journée hier à Waiguya, des commerçants ont manifesté hier contre, entre autres, la hausse des prix des hangars. Des populations exigent le départ du maire Basile Ouédraogo. Sa résidence a été saccagée. Et puis à Bobo Dioulasso, le reste du minaret de la grande mosquée de Dioulasso-Ba s'est effondré. Le monument vieux de plus de 130 ans avait pourtant été rénové il y a 2 ans. Justice en ouverture d'édition, le procès des présumés terroristes ouvert lundi 9 août à Ouagadougou s'est poursuivi hier vendredi après la journée manquée de jeudi. Kassoum Cissé écope de 21 ans de prison ferme assortie d'une période de sûreté de 14 ans et une amende de 2 millions de francs CFA. Il a été reconnu coupable d'association de malfaiteurs et de dégradation volontaire de biens immobiliers et mobiliers, le tout en relation avec une entreprise terroriste. Ousmane Moussa Diko, de nationalité burkinabé, lui écope de 10 ans de prison ferme assorti d'une période de sûreté de 7 ans et 1 million de francs CFA d'amende. Oumarou Issa Bari, un Malien âgé de 27 ans, a été relaxé pour insuffisance de preuves selon le tribunal. Le jugement d'une quatrième personne a été renvoyé à la prochaine session du pôle judiciaire spécialisé. Justice toujours, Pascal Zaïda a été arrêté vendredi par la police judiciaire du centre et placé en garde à vue à la section de recherche de la police judiciaire de Wemtenga pour tentative d'atteinte à la sûreté de l'État, incitation à la rébellion et déclaration subversive. Le chef de file de l'opposition s'est prononcé par rapport à cette arrestation. On écoute Eddy Kamboigo.
Burkina Faso est un pays démocratique. Il y a une constitution. Les libertés d'opiner sont données à tout un chacun par notre constitution. Opiner ne veut pas dire appeler à une insurrection. D'ailleurs, eux, ils sont venus comment? C'est pas une insurrection, non. On ne veut pas aller là. On veut que l'on laisse librement les gens s'exprimer. Ça fait la deuxième fois en une semaine que l'on entend que des activistes ou des compatriotes qui ont opiné sur la situation nationale ont été interpellés. Ce n'est pas un pays policier, c'est un pays de droit, organisé par une constitution et il y a les procédures nécessaires. On est allé le chercher, le cueillir devant sa cour sans une convocation. Qui leur a donné ce droit? Et tout un chacun a un droit. Si le droit vous permet de le faire, le faites. Mais ne le faites pas comme vous êtes en train de le faire. Actuellement, on interpelle n'importe où, on envoie la BAC devant une maison, fermer la maison pour prendre. Ce qu'on leur demande, c'est d'aller faire reculer les bandits au niveau des frontières.
Cette arrestation intervient moins de 24 heures après une conférence de presse animée par Pascal Zaïda, coordonnateur du cadre d'expression démocratique CED, et Marcel Tankouano, président du mouvement M21, qui dénonçait l'insécurité, la vie chère, la corruption, mais aussi la crise du foncier. Pour Marcel Tankouano, président du mouvement M21, cette arrestation n'est pas fondée. Les faits reprochés à Pascal Zaïda vont au-delà des propos tenus par l'inculpé.
À l'heure qu'il est, les charges retenues contre lui, tentative d'atteinte à la sûreté de l'État, incitation à une rébellion, déclaration subversive. Les trois charges. Bon, à l'heure qu'il est, nous avons rencontré le commissaire, qui a été très clair, qui nous a dit qu'ils ont transmis la déposition de Pascal Zaïda au niveau du parquet, et que maintenant c'est le procureur du Faso qui décide. Pratiquement, c'est les mêmes charges qu'on donne presque à tout le monde quand quelqu'un est arrêté dans ce genre de réaction. Dire que tentative d'atteinte à la sûreté, qu'est-ce qu'il a dit qui puisse vraiment mettre l'État burkinabé dans une difficulté? On a été très clair à la conférence de presse hier. Ça, c'est le premier point. incitation à une rébellion. Quelle incitation et quelle rébellion? Qu'est-ce que Pascal peut faire? Un responsable de ce qu'est-ce qu'il peut faire s'il se met faire la veille citoyenne, dénoncer ce qui ne va pas pour que les dirigeants trouvent les solutions aux problèmes posés. En réalité, bon, nous ne savons pas est-ce qu'il y a une main politique derrière, sauf que c'est trop fort par rapport à nos propos, par rapport aux propos de Pascal Zaïda.
Parlons à présent de la visite du ministre en charge du commerce chez le chef de file de l'opposition, Haruna Kaboré, a rendu visite hier au CFOP pour apporter des éclaircissements sur la flambée des prix de première nécessité, une occasion pour le ministre de faire le point des actions de contrôle menées sur le terrain, compte rendu de Valérie Guéret et Jacob Campaoré.
Haruna Kaboré, chez le chef de file de l'opposition. Une visite pour présenter à l'opposition politique la situation de renchérissement des prix des denrées alimentaires. Une hausse des prix relative à plusieurs raisons. Haruna Kaboré, ministre du Commerce.
Avec la situation de déréglementation au niveau donc des coûts du fret, des bateaux et la disponibilité de conteneurs, ils font que nous sommes en tout cas victimes donc de ce choc exogène. Et lors de nos échanges, nous avons reçu des contributions du chef de file de l'opposition et de l'ensemble des partis politiques.
Des explications auxquelles le CFOP ne croit pas vraiment et il s'emporte presque. Eddy Kombego, chef de file de l'opposition politique.
C'est triste pour nous. C'est pourquoi je donne un appel. Qu'il se retrouve rapidement et qu'il prenne les dispositions nécessaires pour que les prix reviennent à de bons niveaux acceptables. Sinon, nous serons toujours du côté des populations, toujours du côté de ceux qui sont dans le besoin.
Pour pallier la situation qui prévaut actuellement, le ministre du Commerce envisage des actions concrètes. Il s'agit de la suspension des exportations des produits agricoles, mais aussi du renforcement des actions terrain avec l'arrivée de 315 nouveaux agents qui viennent en appui pour le contrôle des prix des différents produits.
Et comme annoncé en titre, à Waiguya, des populations ont manifesté contre la hausse des prix des hangars et l'organisation récurrente deux fois par des commerçants originaires d'autres villes. Écoutez à ce propos Abdoulaye Ouedraogo, commerçant au grand marché de Waiguya et président du Conseil régional de l'économie informelle.
On a tenu une réunion avec le maire de la commune qui avait pris des engagements et ces mêmes engagements plaisent pas aux commerçants. Les trois engagements qu'il a pris, c'est l'augmentation des prix des boutiques qui font face à la place des nations. Depuis fort longtemps, les gars payaient 5 000 francs le mois et brusquement ils viennent leur dire que c'est devenu 20 000 francs. Aujourd'hui, il y a le Covid-19 qui est là, il y a l'insécurité qui est là, donc les activités commerciales n'est pas du tout facile. Il y a aussi le problème de la place des nations. Nous, on a constaté qu'à chaque proche de la fête, ils viennent organiser des foires ici. Et ces foires-là, vraiment, ne bénéficient pas les commerçants qui sont au grand marché. Donc, on a dit au maire que nous, on veut qu'ils arrêtent un peu les foires. Même si c'est une fois par an ou deux fois par an, il n'y a pas de problème. Il avait dit aussi qu'il va créer une comité de gestion pour gérer les marchés. Nous allons donner la liste de 12 personnes et quand la liste est arrivée, le maire a trouvé que c'est anormal que les commerçants se sont réunis. Ils ont créé un bureau unique là. Le maire ne veut pas entendre ça. Ça veut dire que c'est une manière de diviser pour pouvoir régner. Donc nous n'est pas d'accord.
Des manifestants qui exigent aussi le départ du maire Basile Ouedraogo. Sa résidence a été saccagée, a constaté notre reporter Yacouba Wilio. Le reste du minaret principal de la grande mosquée de Djoula Soba a finalement cédé hier vendredi. On ne déplore ni blessés ni décès. Antoine Bonny.
Le dimanche dernier vers 13h, une partie de la mosquée de Djoula Soba s'effondre. Puis, s'en est suivi assez de discussions sur le sort à réserver au minaret principal de la mosquée de Djoula Soba.
Sanou Seydou, je suis le guide de la mosquée. Le minaret était à moitié tombé. On voulait tomber les restes. Il y avait la voiture du voirie et puis celui des sapeurs-pompiers qui ont essayé de faire tomber le minaret, mais ils n'ont pas pu. Après, ils sont partis.
Sanou Zakaria, l'enfant du village ici. Dimanche passé, la mosquée, un côté était tombé vers 13h25. Les familles avaient discuté beaucoup et d'autres qui disent qu'on n'a qu'à continuer à construit pour fermer. Il y a d'autres qui disent non, on n'a qu'à casser carrément. Bon, c'est ça, on est en train de discuter. Même le ministre est venu, on a discuté, il y a les forts désordres, ils ont tiré, ça n'a pas tombé.
Et pendant que la discussion était vive, le minerai décide de s'écrouler totalement ce vendredi aux environs de 11h.
Sanou Seydou, je suis le guide de la mosquée. C'est des nations naturelles que les minarets sont tombés. À 11h et quelques, moi-même j'étais dedans, j'ai entendu... Et puis je suis sorti, j'ai trouvé que le minaret était tombé, mais ça n'a pas fait de dégâts. Il n'y a pas eu perte de vie ni de blessés.
C'est Sanou Zakaria, l'enfant du village ici. On a fait une réunion, on était sur, on va casser. On mettait là 11h30 et puis c'est descendu comme ça.
À en croire Seydou Sanou, le guide de la mosquée de Gulasoba, les autorités religieuses, coutumières et politiques sont engagées pour réhabiliter ce minaret principal. La mosquée de Gulasoba a été réhabilitée à plus de 500 millions de francs CFA, une somme qui avait été jugée trop élevée par certains citoyens. Et l'effondrement total de ce minerai risque d'amplifier les débats. Anton Boni, Bobo Dioulasso, Radio Omega.
Le Burkina et le Mali facilitent le retour volontaire des réfugiés dans leur pays d'origine en soutien avec l'UNHCR au Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Ils ont fait le point de la mise en œuvre des accords tripartites du 9 janvier 2015. Les trois parties ont également revu les textes en la matière. C'était lors de la réunion de la 10e commission tripartite Burkina-Mali-UNHCR tenue à Ouagadougou les 11 et 12 août derniers.
12 recommandations ont été formulées pour faciliter le rapatriement volontaire des réfugiés maliens vivant au Burkina et ceux du Burkina au Mali dans leur pays d'origine. Ce sont entre autres l'accès aux documents d'identité et la traversée des frontières malgré la fermeture. Oumarou Diarra, ministre malien chargé des réfugiés.
Il y a certaines familles qui ont exprimé le vœu de retourner. L'État burkinabé et celui du Mali prenons toutes les dispositions nécessaires afin de les accompagner dans la dignité. Les recommandations formulées sont au nombre de 12. Inch'Allah, nous allons voir comment les décliner en plan d'action pour une meilleure évaluation dans les jours à venir. L'objectif ultime reste le retour de nos compatriotes dans la dignité sur leur site d'origine.
L'évaluation exhaustive des réfugiés burkinabés au Mali est l'une des recommandations concernant le Burkina aux autorités maliennes. Clarisse Mirendol Woba, ministre déléguée chargée des burkinabés de l'extérieur.
L'objectif pour nous, c'est de voir comment est-ce que ces burkinabés puissent entamer un retour sécurisé dans la dignité au Burkina Faso. Nous vivons quand même une crise sanitaire complexe, doublée bien sûr de la crise sécuritaire. C'est toute chose qui n'a pas facilité ou en tout cas n'a pas permis un retour beaucoup plus rapide de certaines familles sur leur site d'origine et c'est ce à quoi donc nous allons nous atteler dans les prochains jours.
La prochaine rencontre tripartite Mali-Burkina, une HIR, est prévue en novembre au Mali.
Le caractère laïque du Mali remis en cause par le ministre des Affaires religieuses et du culte Mamadou Koné lors d'une rencontre publique sur la situation sociopolitique du Mali, il a qualifié son pays de république islamique. Cette déclaration a suscité l'indignation chez les chrétiens du Mali qui demandent au gouvernement de rappeler le ministre à l'ordre. En Algérie, les autorités ont déclaré que la majorité des incendies qui ravagent le nord du pays depuis plusieurs jours sont en voie d'être maîtrisés. Il a toutefois été fait état de 5 nouveaux départs de feu dans la région de Tizi Ouzou. En Kabylie. Alors que la majorité des incendies étaient en passe d'être maîtrisés, de nombreux habitants de Kabylie constatent l'ampleur des dégâts sur leurs maisons. Une chaîne de solidarité nationale et internationale s'est mise en place pour leur venir en aide. Présidentielle en Zambie, le dépouillement des bulletins de vote se poursuit. Le décompte des voix a repris hier en Zambie au lendemain d'un scrutin tendu mais émaillé de peu d'incidents. Les résultats de la présidentielle mais aussi des législatives et municipales dans ce pays d'Afrique australe de 17 millions d'habitants devront être connus d'ici dimanche soir. L'écart entre le président sortant Edgar Lungu, 64 ans, et son infatigable rival qui se présente pour la 6e fois, Aikande Ichilima, 59 ans, n'était que d'un peu plus de 100 000 voix en 2016. Il pourrait encore être plus serré selon des sondages. Et puis, assassinat du président haïtien, le juge d'instruction se dessaisit du dossier 4 jours après avoir été désigné. Le juge Mathieu Chalat a formellement signalé au tribunal de première instance de Port-au-Prince qu'il se déportait du dossier pour convenance personnelle. Selon le président de l'Association des magistrats haïtiens, cette décision est compréhensible dans un pays où règne l'insécurité. Là où est logé le tribunal, les gangs armés sont dans le voisinage. C'est donc très difficile pour un magistrat de mener à bien un dossier pareil dans des conditions aussi difficiles, a déclaré le juge Jean Wilner Morin à RFI.
Omega Sport.
Hugues Fabrice Zango est connu pour ses prouesses sportives, mais avant d'exceller dans le sport, le médaillé olympique de bronze au triple saut homme des Jeux olympiques de Tokyo est un brillant élève. Vendredi, il a tenu à rencontrer les 3 meilleurs élèves de l'excellence scolaire 2021 à qui il a remis un soutien financier pour les encourager à maintenir le flambeau de l'excellence. Judith Traoré et Somina Traoré.
Hugues Fabrice Zango, le spécialiste burkinabé du triple saut homme, partage ici son expérience avec les 3 meilleurs élèves de l'excellence scolaire 2021. De son parcours, l'on retient qu'il est aussi une étoile. Hugues Fabrice Zango.
Dans mon cursus, j'ai pu réaliser cela en étant régulièrement premier de ma classe du CP1. J'ai fait un petit faux pas où j'ai été deuxième en seconde. Mais sinon, jusqu'en terminale, j'étais premier de ma classe. Cela a continué à l'université aussi, où j'ai tenu, que ce soit en première année, en deuxième année ou jusqu'à mon master, j'ai quand même réussi à tenir la tête toujours et à être major de ma promotion.
Cette rencontre, Hugues Fabrice Zango l'a voulu car l'excellence, il y tient.
Pour moi, c'est normal de pouvoir venir ici et de récompenser des jeunes frères qui suivent un peu mon pas. Parce que pour moi, c'est absolument important que le Burkina Faso puisse prôner l'excellence. Le mérite, pour moi, c'est un truc qui me tient à cœur.
Saisissant l'occasion, il a tenu à célébrer et encourager les 3 meilleurs élèves de l'excellence scolaire 2021. Les heureux du jour sont les premiers au certificat d'études primaires, au brevet d'études du premier cycle et au baccalauréat. Ils sont respectivement repartis avec 150 000 francs pour le lauréat national au CEP, 200 000 francs pour celui du BEPC et 300 000 francs pour le baccalauréat. Uri Tombiano, premier national au bac, surpris agréablement par ce geste, remercie le donateur. Selon Khalifa Traoré, secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale, Hugues Fabrice Zango est un bel exemple qui montre que l'on peut effectivement allier sport et études.
C'est le sport qui a fait qu'on l'a connu. Et ici, il vient de démontrer qu'en réalité, le sport et les cours et l'école, c'est plutôt complémentaire.
Tout en remerciant Hugues Fabrice Zango pour son geste, le secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale a invité les jeunes à suivre son exemple.
Hugues Fabrice Zango donne et il reçoit. Le premier ministre Christophe Dabiré lui a offert hier une villa F3 économique d'une valeur de 29,6 millions de francs CFA. Le médaillé de bronze des Jeux Olympiques de Tokyo était à la primature pour présenter sa médaille au chef du gouvernement. Hugues Fabrice Zango est le premier médaillé olympique dans l'histoire du Burkina Faso. Il a réalisé un saut de 17,47 mètres le 5 août dernier à Tokyo. La CAF a effectué hier le tirage au sort des préliminaires de la campagne africaine. L'AS Sonabel, champion du Burkina Faso, a hérité du stade malien de Bamako et l'ASFA Yenenga, vainqueur de la Coupe du Faso, devra se débarrasser du FC San Pedro de Côte d'Ivoire. Et plus rien n'arrête Franck Traoré. Déjà buteur mardi en préliminaire retour de la Ligue des Champions, l'attaquant burkinabé a fait trembler les filets ce vendredi lors de la victoire du Shakhtar 2-0. Franck a désormais inscrit 3 buts en 4 journées de championnat. Prochain rendez-vous pour le burkinabé et ses coéquipiers mardi contre l'AS Monaco en barrage aller de la Ligue des Champions. Et c'est sur ces informations sportives que prend fin ce journal réalisé par Bourema Maïga. Merci de l'avoir suivi. Excellent après-midi à toutes et à tous.